C'est toujours une grande joie de pouvoir parler du Seigneur, surtout dans sa communauté. Je comprends Jésus qui disait que dans sa patrie, il n'a pas beaucoup eu de succès. Mais moi, ma patrie, c'est mon Église. J'y tiens, je suis très attaché, même si je suis pas souvent ici. Vous savez que depuis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, je voyage d'église en église, pas à la recherche d'une église, mais pour parler du Seigneur, pour annoncer la parole là où il y a des manques de prédicateurs. Et je sais que notre pasteur demande compris pour ceux qui prêchent dans d'autres églises. Et voilà. Alors c'est encore un plaisir ce matin d'être là devant. Je vous avoue que quand j'étais assis là, j'étais tremblotant parce que c'est toujours une charge. On ne s'imagine pas, mais c'est une charge énorme que d'ouvrir la bouche et d'annoncer la parole. Alors ma prière, c'est que ce soit le Seigneur qui parle et pas moi. Je voulais vous inviter à lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. La lecture sera peut-être longue. Il n'y aura que 25 versets sur tout le chapitre, c'est pas mal. Hein? Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 25. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau de livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est ainsi pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ». Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Alors, vous m'excuserez. Le texte commence par une chose. La loi possède une ombre des biens à venir. possède les choses à venir. La présence de Jésus, donc à partir d'où il est venu dans le monde, avant lui, il y a eu l'ombre des choses à venir. Alors on va dire, mais comment est-ce que c'est possible? De quoi est-ce que tu veux parler? Alors, Ernest, je te remercie de ce que tu as dit à travers le texte de Exode, parce que on voit là que c'était l'ombre des choses à venir. Le sacrifice de Pâques, le sang qu'on mettait sur les linteaux, tout cela c'était l'ombre des choses à venir. Mais avant Moïse, on peut aller jusqu'à Abraham. Abraham qui est sur le mont Morija, et il est en train de sacrifier son fils qui est étendu. J'ai lu quelque part que c'était pas un petit garçon d'une dizaine d'années, c'était un jeune homme bien bâti, et il s'est laissé lier sur l'autel. Et au moment où Abraham a levé le couteau pour l'égorger, il y a un bouc, un bélier qui était coincé par les cornes dans un buisson. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec Jésus? Oui. Quand Jésus était sur la croix, vous connaissez les dernières paroles qu'il a dites. Il a dit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Alors, je ne fais pas étalage de mes connaissances parce que j'en ai pas beaucoup, mais ce que j'ai appris, c'est que lama sabachthani, lama ça veut dire pourquoi, sabachthani c'est pourquoi me coinces-tu dans le buisson, comme ce bélier qui était coincé. Jésus était coincé sur la croix et il ne pouvait pas en descendre parce qu'il fallait qu'il soit sacrifié pour les péchés du monde. Donc déjà du temps d'Abraham, il y avait l'ombre des choses à venir. Alors je ne vais pas faire étalage de toutes les choses qui sont dites dans l'Ancien Testament sur Jésus, parce qu'il suffirait de lire dans les psaumes, dans les prophètes. Mais une autre chose qui est intéressante et qui était, à mes yeux, je vais dire, une des dernières découvertes que j'ai faites, c'est que quand j'ai fait ce voyage en Israël au mois d'avril, nous sommes allés voir, parce que j'étais pas seul, j'avais la charge de 13 personnes à conduire dans un périple, et nous sommes allés voir une représentation du tabernacle dans le désert, à Timna. Alors, quand on entre dans le tabernacle, qui est une merveille, parce qu'elle est construite à l'échelle 1-1, donc elle est vraiment à l'échelle grandeur nature, de ce que Moïse avait fait construire, plutôt ce que Dieu avait permis que quelqu'un construise dans le désert, donc quelque chose qui pouvait être démonté, remonté et déplacé, c'est que quand on entre dans ce tabernacle, eh bien, on a une vision des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'époque. C'est que devant le tabernacle, il y a le bassin où le sacrificateur venait se laver les mains, se purifier. Puis on entre dans le tabernacle, dans la tente. Et d'un côté, vous avez le chandelier. Alors je ne vais pas faire une description, c'est le chandelier, donc la menorah, qui est allumée. Et de l'autre côté, vous avez la table des pains de proposition. Donc les pains que le sacrificateur devait offrir comme sacrifice. Et puis, dans le fond, vous aviez l'autel des parfums. Alors, vous allez dire, c'est bien, t'as bien observé, donc c'est très bien. Mais quand on fait un rapport, vous avez le bassin qui est ici, à l'entrée. De l'autre côté, vous avez le chandelier. En face, vous avez la table des pains de proposition. Et dans le fond, avant le Saint des Saints, vous avez l'autel des parfums. Et c'était la préfiguration de la croix. Dieu avait voulu, dans le tabernacle, montrer déjà que la croix était déjà là. Alors que les Romains sont venus quelques 1500 ans après. La croix n'existait pas, mais elle était préfigurée. Elle était déjà tracée dans le tabernacle. Ça, c'était pour dire que c'était l'ombre des choses à venir. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler, hein, ça fait partie de ce que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, parce que souvent les gens disent, oh, tu sais, moi je ne lis jamais l'Ancien Testament, c'est trop compliqué. Alors je ne lis que le Nouveau Testament, mais bien souvent, si on veut comprendre le Nouveau Testament, ben, il faut aller dans l'Ancien. Et on ne doit pas oublier que Jésus n'était pas chrétien. C'était pas un chrétien, Jésus. C'était un juif. Il pratiquait le judaïsme, je veux dire, à 100%. Donc, quand on veut comprendre ce que Jésus a fait, comment il a agi, eh bien, on doit essayer de se mettre dans la place, à la place de Jésus qui était juif et qui pouvait voir certaines choses. Non, je ne vais pas dire qu'on va commencer à faire des bar mitzvahs. Hein, on ne va pas commencer à porter des crolles, mettre des talits, toutes sortes de choses comme ça. Parce que ça, c'était l'ombre des choses à venir. Christ nous a libérés. Il nous a donné la joie de son salut. Et comme nous le lisons ici, le verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Et alors il y a le verset 18 où il dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. À cause du sacrifice de Jésus, il n'y a plus de sacrifice à faire. Quand Jésus était sur la croix, c'est encore une dernière chose que je voulais dire sur l'ombre des choses à venir. Quand Jésus était sur la croix et qu'il a dit les dernières paroles, tout est accompli, il a baissé la tête, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre et dans le temple, il y avait le voile, la tenture qui séparait le Saint des Saints du reste du temple. Ce voile a été déchiré, pas de n'importe quelle façon, mais elle a été déchirée du haut en bas. Et je crois que je l'ai déjà dit une fois ici, quand un père perdait son fils, la première chose, il déchirait ses vêtements. Et Dieu a déchiré son vêtement pour ouvrir son cœur, pour nous montrer le chemin du salut, pour montrer que tout était accompli. Il n'y avait plus besoin de Saint des Saints puisque nous avons accès librement aux pieds du Seigneur. Et je crois que c'est important puisque nous avons par l'entremise du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alors ça, c'est une chose. Si nous acceptons que le Seigneur soit notre Sauveur, qu'il nous libère de toute emprise du péché, qu'il nous sauve, qu'il nous lave, qu'il nous purifie, puisque quand on confesse ses péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice, de toute iniquité. Si nous avons compris cela, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un devoir. Et comme il a été bien dit, hein, Ernest, je te remercie pour la belle image, les nouveau-nés, ce sont ceux qui ont des langes. Nous ne devons pas oublier que quelquefois, il y a des nouveaux-nés qui ont endossé le costume de leurs parents. Et ça n'a pas de sens. Parce qu'un enfant doit grandir avec des vêtements qui sont à leur taille. Parce que s'ils sont trop grands ou trop petits, ils sont soit trop larges ou trop étroits. Et nous sommes mal à l'aise. Et bien souvent, nous avons affaire à des chrétiens qui ne se sentent pas à l'aise dans leur costume de chrétien. Soit ils voudraient apprendre quelque chose et n'y arrivent pas, Soit ils ont appris trop de choses, mais comme ils sont encore petits dans la foi, ils étouffent. Et ça peut arriver qu'il y a des chrétiens, des nouveaux convertis, qui abandonnent le Seigneur. Plutôt pas le Seigneur, mais l'Assemblée, qui ne viennent plus parce qu'ils ne comprennent pas qu'un tel puisse se comporter comme ça, un tel puisse penser comme ça. Moi, je pense parce que j'ai découvert ça dans la parole de Dieu. Donc, je suis sur le bon chemin. N'oublions pas que les chrétiens, c'est comme dans une famille. Quand on est dans une famille, on a toute une famille qui nous entoure. On a besoin les uns des autres. Alors, pour ceux qui se sont fait baptiser, je voulais dire que vous avez des personnes autour de vous qui devraient pas vous surveiller, mais veiller sur vous. Hein. Je crois que il y a une partie de ce que je voulais dire qui a été dite, mais c'est pas grave. Je remercie le Seigneur parce que tout ce que nous devons dire, tout ce que nous devons faire, n'est toujours pour l'avancement de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas quelque chose de figé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au verset 22, nous dit « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. » Il nous dit d'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Et vous savez, je l'ai déjà dit ici, je pense, le mot « sincère » veut dire « sans cire ». Il ne faut pas qu'il y ait de la cire pour camoufler quelque chose. Il faut que nous soyons tels quels. Et le Seigneur ne veut pas des gens qui sont, en Sicilien, des truccate, hein, qui sont un petit peu rafistolés. Non, on doit être sincère. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Si un jour nous avons dit, Seigneur, je te prends la main, sachons que Dieu ne va pas la lâcher. C'est nous qui risquons de lâcher parce que nous avons tellement de choses dans la vie. Alors pour cela, j'avais fait une fois, je pense que je l'ai fait ici aussi avec les doigts, hein, plier les doigts. Et vous pouvez séparer tous les doigts sauf l'annulaire qui lui ne saurait jamais se séparer. Ça c'est notre fidélité avec le Seigneur. C'est l'alliance que nous avons faite avec le Seigneur, une alliance éternelle, une alliance qui ne pourra jamais s'étioler. Alors le verset 24 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Alors comme il a été dit, et je le répète, ce n'est pas des surveillants, quoique on pourrait surveiller les uns les autres, se surveiller les uns les autres pour voir si nous ne bronchons pas d'une quelconque manière, si nous ne faiblissons pas. Mais nous devons veiller. Alors, j'ai fait l'expérience cette année-ci quand j'ai conduit ce petit troupeau en Israël. Je me suis pris pour Moïse. Et ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu nous comptes à chaque fois? Hein, alors, chaque fois qu'on montait dans le bus, je comptais, on était 14, donc c'était pas difficile, hein. Et je disais, non, je veux être comme un bon berger qui compte et qui recompte pour qu'il n'y ait pas un qui se perde. Alors, moi, l'expérience que j'avais faite, c'était d'avoir un œil de surveillance, de veiller au confort de chacun pendant tout le séjour. Et le Seigneur veut que nous veillons les uns sur les autres pendant le séjour que nous avons sur cette terre. Pendant que nous sommes dans la communauté, nous devons être des veilleurs. Alors il y a un chant qui dit, il parle d'aimer et de se savoir aimer, hein, d'aimer, et moi j'avais mis un autre mot que veiller. Et en cette année-ci, j'ai compris que le Seigneur me demandait d'être un veilleur. De veiller, ça veut dire avoir les yeux toujours ouverts sur ceux qui m'entourent, sur ceux que le Seigneur a mis à ma disposition, à ma charge. Et on a du travail. Parce que on ne peut pas dire, comme Caïn a dit à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Quand on accepte le Seigneur et qu'on a accepté d'être membre de l'Église, nous avons des devoirs et des obligations envers les autres. Même envers ceux qui fréquentent et qui ne sont pas membres d'Église, qui ont une idée peut-être différente de celle que nous avons. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et quand on voit quelqu'un qui n'est pas venu pendant un dimanche ou deux, osons téléphoner. Osons, si nous avons son adresse e-mail, le contacter et lui demander « Qu'est-ce qui se passe ? Je ne t'ai pas vu. Tu manques à la communauté. » Dimanche était plein ici. Hein? On avait même dû remettre des chaises. Et aujourd'hui, c'est rempli aussi. Hein? Je ne vais pas dire que c'est plein, mais c'est rempli. Hein? Mais nous avons besoin de savoir que ceux qui étaient assis à côté de nous dimanche, qui ne sont pas là, si nous savons qui ils sont, nous pouvons leur donner un coup de fil et leur dire « Ta place était vide. » N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas. Alors, en lisant et relisant, en méditant ce verset, je me suis dit, mais est-ce que c'est seulement dans un sens ? Parce que n'abandonnons pas, ça s'adresse à moi. N'abandonne pas la communauté dans laquelle tu t'es engagé. Si notre engagement est seulement un engagement du dimanche matin, ça peut être utile, mais c'est pas tellement nécessaire. Parce que nous sommes impliqués dans la communauté. Nous avons des tâches et des obligations. Et bien souvent, on se débine d'une chose à l'autre. Hein. Vous savez, moi j'ai acheté une fois un livre, j'étais loin pour aller l'acheter, c'était aux États-Unis, et j'ai juste acheté un livre que j'ai jamais lu, mais je l'ai acheté pour le titre. Il était écrit « Je ne me sens pas appelé », et entre parenthèses, il était mis « Dieu merci ». Hein? Je ne me sens pas appelé. Nous sommes tous appelés au service du Seigneur, chacun pour notre part. Ah, il y en a qui vont faire des grandes réunions d'évangélisation bien loin. Hein? Il y en a d'autres qui vont être des témoins discrets dans leur famille, mais combien efficaces, parce qu'ils vont prier. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petites choses. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites, on lui en donnera des grandes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est l'habitude de quelques-uns. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est seulement moi qui dois ne pas abandonner ma communauté? Est-ce que les autres, les responsables d'église, n'ont pas aussi une tâche de ne pas abandonner l'assemblée, de ne pas leur dire, écoutez, allez, chauffez-vous, comme dit l'apôtre Jacques, et puis à dimanche prochain. Non, nous avons le devoir de veiller, d'être là où Dieu veut que nous soyons. Nous avons vu avec notre frère qui est parti à l'hôpital, que dès qu'il s'est senti mal, directement des gens qui se sont levés. Ça, c'est l'union qui fait la force. Hein? Notre unité, c'est celle qui doit nous renforcer, qui doit nous aider à avancer, à aller de l'avant. N'ayons pas peur, parce que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Il n'est pas encore revenu. Il prend patience. Il veut voir de quelle façon nous l'honorons. Est-ce que nous l'honorons seulement du bout des lèvres? Hein? Je t'aime, Seigneur. Mais quand le Seigneur dit, montre-moi que tu m'aimes, va. On dit, oui, mais Seigneur, tu sais, j'ai la marmite qui est sur le feu. En plus, ce sont la graisse des frites. Les frites doivent être mises pour la deuxième fois. Tu sais, je ne saurais pas. À Marthe et Marie, qui étaient dans la maison à Béthanie, Marie qui venait, Marthe qui venait dire à Jésus, mais tu sais, dis à Marie, à Marthe, pardon, à Marie que on a quelque chose à faire. Et Jésus lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais c'est Marie qui a pris le meilleur, parce qu'elle est à mes pieds. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit laisser tout de côté. Hein. Mais que notre service, même un service domestique, soit fait pour la gloire de Dieu. Et les gens qui vont goûter votre repas vont voir qu'il est assaisonné de prière, qu'il est bon parce qu'il a été préparé dans l'amour du Seigneur. N'abandonnons pas notre assemblée parce que nous avons quelque chose à recevoir, pas seulement du prédicateur ou des chants, de celui qui a fait la présidence, mais nous avons quelque chose à recevoir les uns des autres. Peut-être un sourire, peut-être une bonne nouvelle, un témoignage. Quand on était en Israël, nous avons chaque soir, nous avons eu un moment de méditation et un moment de témoignage. Et là, chacun a pu s'exprimer. Il y a des gens qui, peut-être, c'était la première fois qu'ils osaient s'adresser tout haut à un petit groupe pour dire ce que le Seigneur avait fait. Il y a une dame qui est venue du Canada pour venir en Israël. Une autre qui est venue de Boston, et celle qui est revenue qui était venue du Canada, quelque chose s'est passé dans sa vie, et elle a dit, Salvatore, je m'en retourne au Canada, transformé et changé. C'était une enfant de Dieu, mais voyez qu'on peut être transformé et renouvelé. Parler du Seigneur à quelqu'un, c'est pas toujours difficile. Hein. Suffit qu'on ait bien les choses en place, on peut faire directement un bon speech, amener peut-être quelqu'un au Seigneur. Mais quand quelqu'un est découragé, quelqu'un est par terre, essayez de le restaurer, de réparer ce qui était peut-être blessé. Ça, c'est aussi une autre tâche que le Seigneur veut nous donner. Nous avons tous un ministère. Il y en a que c'est des ministères qu'on peut voir, d'autres des ministères cachés. Mais nous devons tous les exercer. N'ayons pas peur de les mettre en avant. Et le Seigneur nous aidera à voir de quelle façon nous devons l'honorer. Il a une tâche pour chacun. L'apôtre Paul dit, nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres que Dieu a placées devant nous. Pas pour que nous les regardions, pas pour que nous les examinions, mais pour que nous les pratiquions. Demandez au Seigneur de vous montrer clairement ce que vous devez faire. À quoi vous êtes utile entre ses mains? D'habitude, j'ai un bic. Je fais ça et il est utile. Je peux écrire. Quand je n'ai plus besoin, je le remets à sa place, mais il est toujours utilisable. Dans les mains de Dieu, nous devons être comme ce bic, toujours utile à son service, n'importe quand lui en a besoin. Disons-lui tous les matins, « Seigneur, je veux faire ta volonté aujourd'hui. » Alors, j'ai appris quelque chose, Je deviens un peu vieux, je ne sais plus où je raconte les choses. Hein. Mais le matin, dans la tradition juive, quand on se lève et qu'on met les deux pieds par terre, eh bien, on prend le temps 12 secondes. C'est le temps qu'il faut pour que le sang change de position, hein, de circulation. Et pendant ces 12 secondes-là, que vous êtes assis sur votre lit, dites, Seigneur, merci pour le repos que tu m'as donné, je t'offre la journée, aide-moi à chaque instant. Et les 12 secondes sont passées, vous pouvez démarrer en bonne forme. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé pour de bonnes œuvres qu'il a créées devant nous, pour que nous les pratiquions. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a quelques-uns qui ont l'habitude. Mais ne regardons pas ni à gauche ni à droite. Que 1000 tombent à ta gauche, 1000 tombent à ta droite, toi continue le chemin. Amen.